Merci JR, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs de Radio Okapi, membres de la presse et chers collègues du groupe de communication des Nations Unies, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 18 novembre 2015. Au sommaire de notre rendez-vous de ce jour, nous vous parlerons des activités menées par certaines composantes de la MONUSCO. Nous évoquerons également les activités diverses menées par l'équipe pays des Nations Unies, composé des piliers développement et humanitaire et représenté ici par Florence Marshall. Et depuis Goma, nous aurons le lieutenant-colonel Amuzung Kodjo Martin qui nous fera le point de la situation sécuritaire dans les différentes provinces du pays. Je rappelle aussi que nous avons ici à Kinshasa avec nous le général de division Jean Bayou, l'actuel commandant par intérim de la force de la MONUSCO. Prendra également part à cette conférence de presse M. José Maria Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous fera le point sur les principales tendances des violations des droits de l'homme observées au cours du mois d'octobre 2015. Je vous rappelle que nos collègues de l'équipe pays sont aussi avec nous dans la salle et pourront prendre en compte vos préoccupations dans leurs domaines de compétences respectifs. Nous commençons cette conférence de presse par vous annoncer l'arrivée depuis le lundi 16 novembre 2015 et la prise de fonction du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, M. Mamman Sambo Sidiki. Pour votre information, M. Mamman Sambo Sidiki du Niger a été nommé le 8 octobre 2015 par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et remplace à ce poste M. Martin Kobler, dont le mandat est arrivé à terme le 31 octobre 2015. Monsieur Sidiku apporte à son nouveau poste une vaste expérience avec plus de 25 ans au sein des services intérieurs et extérieurs de son pays, au sein des Nations Unies, mais aussi en tant que haut responsable de l'Union africaine. Avant de rejoindre la MONUSCO, il a occupé le poste de représentant spécial de l'Union africaine en Somalie et chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Vous trouverez d'autres informations sur le nouveau chef de la MONUSCO dans le communiqué qui vous sera remis à la fin de cette conférence de presse. Nous vous l'annoncions au début de cette conférence de presse, alors sans tarder, nous pensons aux activités menées par les composantes et sections de la MONUSCO. Commençons par les droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu le lundi 16 novembre 2015 un atelier d'appropriation de l'édite portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes au Sud Kivu. Cet atelier a été organisé conjointement avec l'ONG Protection internationale et la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Une cinquantaine de personnes, dont des députés provinciaux, des membres des organisations internationales et nationales de défense des droits de l'homme, ainsi que des professionnels de médias ont pris part à cette activité de sensibilisation qui vient soutenir le processus de vote de l'édite. L'édite, je rappelle, est un texte de loi voté par les députés provinciaux portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes au Sud Kivu. Mamadou Diallo, le chef de cette entité au Sud Kivu, a également ajouté que l'adoption de cet édit soulagera tant soit peu la souffrance de nombreux défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en province du Sud Kivu et permettra à ces derniers d'exercer leur profession dans les limites de cet édit. Restons toujours dans le cadre de la formation, mais avec la police MONUSCO cette fois-ci, pour vous informer que le chef de la composante police par intérim de la police MONUSCO, le colonel Tabaski Diouf, a ouvert le mardi 17 novembre 2015 un séminaire sur la sécurisation des élections au profit de 32 formateurs de la police nationale, de la police des Nations Unies, UNPOL, venus des différents secteurs et sous-secteurs à travers toute la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le colonel Diouf a remercié l'état-major UNPOL qui a initié cette formation qui se déroule du 17 au 19 novembre. Il a aussi rappelé l'importance du renforcement des aptitudes des UNPOL en cette matière car, dira-t-il, la sécurisation des élections revient à notre partenaire privilégié qui est la police nationale congolaise et nous avons le devoir de mieux nous préparer à la soutenir dans le renforcement des capacités de ses agents. Fin de citation. Le 14 novembre 2015, Madame le chef de bureau de la MONUSCO Kalemi et le chef de division unique de la province du Tanganyika ont co-présidé la cérémonie officielle de clôture d'une session de formation des formateurs de la police nationale congolaise dans la salle de la procure de l'église Christ le Roi. 40 fonctionnaires du commissariat de la police nationale congolaise du Tanganyika ont suivi cette formation menée par la police MONUSCO qui, selon le commissaire provincial de la police nationale du Tanganyika, illustre l'excellent partenariat existant entre la police nationale congolaise et le secteur UNPOL. Il s'est dit satisfait de cette formation avant d'exhorter les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises pour mieux former leurs collègues. Vous trouverez les détails de toutes ces informations dans le verbatim qui vous sera remis à la fin de cette conférence. conférence de presse. Sans transition, je passe la parole à ma collègue Florence Marchal, qui partagera avec nous les informations sur les activités de l'équipe Pays des Nations Unies en République démocratique du Congo pour la semaine écoulée, mais aussi pour les jours à venir. Florence, bonjour. Le micro est à vous.
Bonjour Félix, bonjour à tous. Une actualité chargée pour l'UNICEF cette semaine avec ce mercredi la présentation d'un nouveau rapport sur l'éducation en République démocratique du Congo. Le rapport présenté conjointement par le ministère du Plomb et l'UNICEF documente plusieurs évolutions positives avec l'augmentation du taux brut de scolarisation ainsi que celle du financement public de l'éducation. La publication de ce rapport intervient à un moment où des réformes majeures sont en cours en RDC et avec l'adoption au niveau global des objectifs de développement durable dont l'objectif numéro 4 fait référence à une éducation de qualité. Demain, 19 novembre, sera célébrée la Journée mondiale des toilettes. Selon l'UNICEF, l'absence d'accès à des toilettes met en danger des millions d'enfants parmi les plus pauvres du monde. Certaines données récentes révèlent qu'il existe de nombreux liens entre un assainissement insuffisant et la malnutrition. En RDC, des interventions intégrées portant sur la nutrition et l'eau, l'assainissement et l'hygiène ont été menées auprès de communautés déplacées et on a pu constater que la dénutrition et les maladies d'origine hydrique avaient diminué de façon sensible chez les enfants de moins de 5 ans. En outre, environ 60% des bénéficiaires avaient bâti des latrines et près de 90% des enfants atteints de malnutrition avaient retrouvé leur poids normal au bout de 12 mois. Et puis vendredi, toujours l'UNICEF, mais cette fois-ci à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, placée sous le thème national Équité et droits de l'enfant en RDC, donc l'UNICEF et le ministère de la Femme, Famille et Enfants organisent une conférence sur l'équité. Conformément à son mandat, l'UNICEF fait en sorte que tous les enfants, en particulier les plus démunis, bénéficient de soins de santé, d'une nutrition appropriée, de services d'assainissement, d'un accès à l'eau potable, d'une éducation, d'une protection, d'information et de tout autre service nécessaire à leur survie, à leur croissance et à leur développement. Je vous rappelle que le 20 novembre est la date anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Passons maintenant aux informations du programme des Nations Unies pour le développement. Lors du Forum de développement des énergies renouvelables qui s'est tenu la semaine dernière à Kinshasa, la RDC s'est dotée d'un agenda d'action pays dont l'objectif est d'éclairer tout le pays à l'horizon 2030. La RDC est le seul pays francophone à disposer d'un tel cadre stratégique de gestion du secteur de l'énergie, un cadre qu'elle présentera d'ailleurs à la COP21 à Paris. Le PNUD a aidé à la formulation de cet agenda. Le ministère des Relations avec le Parlement, en collaboration avec le PNUD, organise pendant toute cette semaine deux ateliers dans le domaine du contrôle parlementaire. À l'issue de cet atelier, les membres des cabinets ministériels, les dirigeants d'entreprises et d'établissements publics pourront mieux rédiger une question parlementaire, une motion de méfiance, une motion de censure ou encore préparer un dossier pour un ministre si ce dernier est appelé à s'expliquer devant le Parlement. À Kinshasa, près de 60 parlementaires francophones venus de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre participent depuis hier à un atelier sur la façon de mieux agir pour garantir la transparence et la redevabilité dans le secteur minier. Il s'agit d'une question cruciale. Entre 2000 et 2008, la valeur créée à partir des ressources naturelles en Afrique est passée de près de 40 milliards de dollars à 240 milliards de dollars. Mais l'expérience montre que cette augmentation ne peut se traduire par un impact sur le développement durable à la seule condition que des politiques efficaces et des systèmes de gouvernance soient mis en place. L'objectif de cet atelier est donc de doter les parlementaires d'Afrique des outils nécessaires afin d'assumer leur rôle dans le contrôle et la gestion des industries extractive et dans le contrôle de la traçabilité des matières premières. Cet atelier organisé par le PNUD avec le soutien de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, de la République française, de la coopération allemande, du Natural Resource Governance Institute et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Voilà.
Merci Florence de nous avoir gratifié d'informations aussi riches que variées. Maintenant la situation militaire avec le lieutenant-colonel Amouzou Martin Kodjo, le porte-parole militaire, qui interviendra à partir de Goma au nom de la force pour nous faire le point de la situation sécuritaire. Mon colonel, le micro est à vous.
Merci Félix, bonjour à tous. Durant la semaine écoulée, La situation sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo a été rapportée calme. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises poursuivent les actions militaires dans le but d'interdire les activités négatives des éléments de l'armée de résistance du CNRA perpétrés contre les populations civiles dans les districts de Haut et de Bas-Jouélé. En Ituri, la force de la MONUSCO poursuit en coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ses activités militaires visant l'éradication du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI et du groupe Mamai Fassion Manou, dont les éléments ont perpétré des exactions contre les populations civiles des territoires du Moru et de Mambasa. Par ailleurs, le 13 novembre 2015, des hélicoptères d'attaque de la MONUSCO qui assuraient la couverture d'une mission de surveillance au sud-est de Gueti, à proximité de la frontière de l'Ouganda dans une zone abritant un camp du FRPI, ont été pris à partie par des combattants FRPI. Nos hélicoptères ont riposté avec leurs canons pour appuyer les troupes opérant au sol. La MONUSCO agit dans le cadre de son mandat de protection des populations civiles et de ses règles d'engagement. Et ce, en réponse aux exactions commises par les éléments FRPI contre les populations civiles. Elle encourage les combattants illégaux à adhérer sans tarder au processus de désarmement volontaire. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire demeure volatile et imprévisible. Dans le territoire de Beni, les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF ont ciblé leurs attaques contre les unités des forces onusiennes et congolaises ainsi que les populations civiles dans les régions de Maïmouya et de Kokola. Les troupes des forces coalisées MONUSCO-FARDC ont sécurisé la région de Maïmouya et poursuivent les opérations contre ces criminels ADF. Le climat sécuritaire est également perturbé dans les autres territoires de cette province par les activités négatives des éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et des différents groupes Maïmaï. En outre, les accrochages réguliers entre les éléments de FDLR Fouka et de ceux du groupe Maïmaï Ira dans la région située entre Kimaka et Miriki, 13 km sud-est de Lufu, constituent une préoccupation sérieuse quant à la situation sécuritaire dans la zone, car ils provoquent de sérieuses meurtres et des déplacements de populations civiles. Au titre des reddictions dans cette province, du 11 novembre 2015 à ce jour, 13 éléments du groupe armé, dont 5 FDLR, se sont rendus aux forces de la MONUSCO dans cette province. Au sud Kivu et au Katanga, l'environnement sécuritaire reste sous contrôle des forces onusiennes et congolaises, malgré l'activisme des différents groupes contre les populations civiles. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1138 patrouilles armées, dont 300 nocturnes, et fournit 48 escortes pendant la période sous examen. Merci.
Grand merci au lieutenant-colonel Amouzou Martin, le porte-parole militaire, qui vient de nous faire un rapide survol de la situation sécuritaire, certes émaillée ça et là par quelques incidents. Toutefois, retenons que les forces de défense et de sécurité congolaises, ainsi qu'appuyées par la force de la MONUSCO, maintiennent de manière très globale la situation sécuritaire sous leur contrôle. Et comme nous vous l'annoncions au début de la conférence de presse, nous avons avec nous aussi aujourd'hui M. José Maria Aranaz, qui est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous présentera aujourd'hui les principales tendances des violations des droits de l'homme durant le mois d'octobre. Monsieur Aranaz, bonjour, la parole est à vous.
Merci, Félix. Ah, comme tu viens de dire, on va présenter les principales tendances qu'on a documentées pendant les mois d'octobre par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Premièrement, on a documenté 407 violations des droits de l'homme sur le territoire de l'RDC. Comme toujours, les provinces plus affectées sont les provinces à l'est. Les agents étatiques seront responsables d'une soixantaine de personnes de violations des droits de l'homme documentées, et ça c'est une augmentation très grande par rapport du rapport antérieur. Parmi les agents étatiques, c'était les forces armées qui ont commis la majorité des violations des droits de l'homme documentées, suivies par la PNC et l'ANR. Parmi les groupes armés, qu'ils ont commis 41% de violations des droits de l'homme documentées, c'était les FRPI qui étaient responsables de la majorité des violations des droits de l'homme, suivies par les RDLR et après ça par les LRA, par les ADF, excusez-moi. Au mois d'octobre, par rapport de la violence sexuelle, le bureau conjoint a complété deux missions d'enquête sur le territoire de Kalehe à la localité de Mousseigny. Donc nous avons documenté une violation de 14 victimes par membre de la FRDC. On a partagé ça avec les autorités qui nous ont donné leur parole qu'on va faire leur enquête tout de suite, et nous sommes offert tout notre appui à ça. Par rapport des violations des droits de l'homme qui sont des relations avec le processus électoral, on a documenté aussi une augmentation des violations des droits de l'homme avec les relations avec le processus électoral. 21 cas documentés dans le mois d'octobre, ça c'est une augmentation par rapport au mois antérieur. Et l'autre chose à souligner, c'était que la province de Kasaï Oriental et Sud Kivu, ils ont enregistré la majorité des cas de violation des droits de l'homme relationnés avec le processus électoral, et les auteurs de violations, c'était la PNC avec 11 cas, suivi par les ANR, 5 cas. Nous sommes déjà montré, comme dans les mois précédents, notre préoccupation constante pour la tendance de répression des droits et des libertés qui sont consacrés à la Constitution de l'RDC, et aussi sur l'application des doubles standards de la loi d'une manière discriminatoire contre l'opposition et contre la société civile. Dans le mois d'octobre, le bureau a documenté 7 manifestations qui étaient organisées par l'opposition, qui bien, ils ne sont pas autorisés ou ils sont brutalement être répressés par les forces de sécurité. En même temps, il y avait au moins 11 manifestations d'appui à la majorité présidentielle qui ont été prises sans problème ou disruption. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, on a continué notre appui aux autorités pour améliorer les activités de lutte contre l'impunité. Au moins, il y avait 16 membres de la FRDC et un membre de la PNC qui étaient condamnés pour activités qui étaient contraires aux droits de l'homme sur le territoire de la RDC. Dans le programme de protection, on a documenté au moins 27 cas on a donné la protection des Nations Unies. Une autre information intéressante qui vient de Genève, et ça fait référence au mois de septembre, c'était le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans le cadre de la 63e session a adopté la conclusion de l'arrestation arbitraire de Fred Bauma. Le groupe de travail a conclu que l'arrestation de Fred Bauma est arbitraire et qu'elle manque la base légale et qu'elle a un impact direct sur la liberté d'expression et d'opinion et son droit à être assisté d'un avocat qui a été bafoué, et on demande la libération de Fred Bauma. C'était une question qu'on a déjà partagée et qu'on a dit, on a exprimé la même préoccupation. Je pense que c'est... Il faut noter aussi la ratification de la loi de la Cour pénale internationale qui était ratifiée par la RDC. C'est de bonnes nouvelles, même s'il y a quelques différences d'appréciation par rapport à l'application de la peine de mort. C'est tout de mon côté.